C'est difficile à imaginer, mais l'excitation était au maximum dans le camp. Pensez, ces gens avaient marché pendant 40 ans dans le désert. C'est vrai, ils étaient restés pendant plusieurs années à certains endroits. Mais ils avaient été vagabonds dans le désert pendant 40 ans et maintenant, ils sentaient qu'enfin, ils allaient rentrer dans la terre promise. Mais la terre promise était occupée. Occupée par des gens de grande taille. Les mêmes géants qui étaient là 40 ans avant étaient encore là aujourd'hui, mais c'était un peu différent. On avait l'impression que le Seigneur allait ouvrir la voie cette fois-ci. 40 ans de pèlerinage, 40 ans de révolte, 40 ans aussi de miracles où Dieu avait agi avec puissance pour ce peuple. Après 40 ans, il se trouve de nouveau comme un point de départ. 40 ans plus tôt, il se trouvait devant la mer Rouge et maintenant il se trouve devant le Jourdain en crue. C'est le printemps. Il a débordé au-delà de ses berges et il a inondé la région. Et ils sont devant le Jourdain. Dieu va parler à ce peuple d'une façon particulière cette fois-ci. Moïse est mort, Josué a pris les rênes de la situation et du peuple, et Dieu va parler à Josué. Dans le livre qui porte son nom, dans Josué au chapitre 3, il nous est expliqué comment ce passage va se faire. Et il est dit au verset 5, Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Dieu va agir. Par conséquent, soyez prêts. Sanctifiez-vous. Il y a une préparation à faire pour traverser le Jourdain. Il y a une préparation à faire pour entrer dans la terre promise. Le Jourdain, c'est la frontière. Ils sont en deçà du Jourdain. Ils vont bientôt le traverser. Comment? Ils n'ont aucune idée. Mais préparez-vous. Le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Nous avons, en tant qu'adventistes, conscience d'être à la veille du retour de Jésus. C'est vrai, nous l'avons annoncé depuis plus d'un siècle et demi, mais les signes deviennent de plus en plus évidents. Nous nous sentons comme un petit peu devant le Jourdain, à la veille d'entrer dans la terre promise. Et je crois que le Seigneur nous dit aussi aujourd'hui, « Sanctifiez-vous, car bientôt l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Nous demandons au Seigneur d'agir par son esprit. Nous continuons à semer sa parole autour de nous. Et nous sommes dans l'attente des grandes choses que le Seigneur va faire avant de conduire son peuple dans la cité éternelle. Comme ce peuple, nous avons cette invitation. Préparez-vous, sanctifiez-vous. Parce que vous n'avez aucune idée de ce que le Seigneur a en réserve pour vous dans l'avenir. Vous n'en avez aucune idée. Nous comprenons que le Seigneur a travaillé avec puissance lorsque l'Église a commencé au moment de la Pentecôte. Mais cette puissance s'est manifestée d'une façon locale encore. C'est ensuite que les disciples ont été envoyés près de chez eux, puis plus loin, puis jusqu'au bout de la terre. Mais si nous attendons la pluie de l'arrière-saison pour la fin des temps, nous pouvons imaginer facilement que la Pentecôte de Actes chapitre 2 n'est rien à côté de ce que le Seigneur va faire à la fin des temps pour achever l'œuvre qui a été commencée il y a si longtemps. Donc nous n'avons aucune idée des grandes choses que le Seigneur va faire pour son peuple et avec son peuple. Le Seigneur est en train de se préparer un peuple pour ce moment-là. Et je voudrais faire partie de ceux qui sont prêts pour ces grandes choses que le Seigneur est en train de mettre en place. Des instructions ont été données clairement pour savoir comment on allait traverser le Jourdain. Les sacrificateurs allaient prendre l'arche de l'Alliance, la porter, et le peuple devait suivre 500 mètres plus loin, derrière. Au moment où les sacrificateurs étaient tous les pieds dans l'eau, sur les berges inondées du Jourdain, l'eau s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée, nous dit le texte, très loin, et puis elle a coulé, et le lit du fleuve s'est vidé jusque dans la mer morte. Les sacrificateurs, selon les instructions, sont avancés jusqu'au milieu du lit du fleuve. et le reste du peuple est passé. Il y avait une grande largeur, ils pouvaient donc passer en grand nombre à ce moment-là. Ils étaient nombreux. Sans doute ça a pris du temps pour passer. Mais on allait passer la frontière qui s'ouvrait sur la terre promise. Des instructions particulières ont été données cependant. Un petit peu plus loin au chapitre 4 dans le livre de Josué, il nous est dit ceci, au verset 8. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Ils vont prendre 12 pierres, une par tribu. Dans chaque tribu, un homme avait été sélectionné pour cette tâche. Et ils vont construire un monument pour se souvenir de ce que Dieu a fait ce jour-là. Imaginez passer le Jourdain à pied sec. Beaucoup de ceux qui ont passé le Jourdain n'avaient pas vu le miracle de la mer Rouge. Seulement les plus âgés en avaient été témoins. Et à ce moment-là, ils étaient bien jeunes. Pour beaucoup, ce miracle était extraordinaire, nouveau, incroyable. Alors on va construire un monument pour se souvenir de ce que Dieu a fait. Et les hommes aiment avoir des monuments. Si vous voyagez, ce que font les touristes, c'est visiter les monuments. Allez à Paris, on va vous montrer les monuments, l'Arc de Triomphe. Allez à New York, on va vous montrer la Statue de la Liberté. On va construire des monuments pour ne pas oublier ce qui s'est passé dans le passé. Je me souviens. Et c'est ce que le peuple d'Israël va faire. Il va construire un monument. Curieusement, il nous est dit au verset 9. C'est dans Josué chapitre 4, au verset 9. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Josué ne se contente pas du monument que Dieu lui avait donné l'ordre de construire dans le camp. Il va dire aux sacrificateurs, « Attendez, on va construire un monument là où vous êtes, et on va construire aussi un monument de 12 pierres, là où vous avez attendu que le peuple passe. Et au milieu du Jourdain, ce monceau de pierres va s'élever. » Et le texte nous dit, il est encore visible au moment où le texte a été écrit. Josué va faire ériger deux monuments. L'un dans le camp, leur premier camp en terre promise, l'autre au milieu du Jourdain. Deux monuments à la gloire de Dieu. Deux monuments pour se souvenir ce que Dieu a fait pour eux. Deux monuments pour qu'ils se rappellent que Dieu est le seul qui a permis qu'ils puissent venir en terre promise. Deux monuments pour qu'ils se souviennent que c'est Dieu qui sauve, que c'est Dieu qui ouvre la porte de la terre promise. Deux monuments. Cependant, on apprend en lisant le texte que Dieu ne leur donne pas simplement deux monuments de pierre. Dieu va leur donner aussi deux monuments vivants, pour qu'ils se souviennent, pour qu'ils n'oublient pas. Ces deux monuments, en réalité, Dieu aurait voulu qu'ils se perpétuent dans le temps. Mais depuis leur révolte à Kadesh Barnéa, ces deux institutions se sont arrêtées, la circoncision et la Pâque. Ce sont là deux monuments aussi que le Seigneur veut restaurer pour eux. Vous vous souvenez, à Kadesh Barnéa, la révolte avait éclaté. Le Seigneur était prêt à leur ouvrir la porte de la terre promise et ils avaient dit, « Oh non, il y a là-bas des géants, le Seigneur nous a trompés, nous allons nommer un autre chef, nous allons rentrer à la maison en Égypte. Ce Dieu-là, non, on n'en veut pas, au revoir. » Ah, vous n'en voulez pas? Ah, vous ne voulez pas rentrer dans la terre promise? Eh bien, vous allez rester dans ce désert pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, ils ont tourné. Mais depuis, la circoncision et la Pâque ont été arrêtées, comme si l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple avait été altérée, abîmée. rompu presque. Mais dans Josué, au chapitre 5, au verset 9, il est dit ceci. Josué, chapitre 5, verset 9. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. » Dieu s'adresse au peuple et lui dit, « Voilà, maintenant, les 40 ans sont passés. Nous allons reconstruire cette alliance qui a été détruite par votre rébellion. Je vais rouler loin de vous la honte de cette révolte et de la mentalité de l'Égypte, où vous vouliez retourner. » Et c'est de là qu'est venu ce mot Gilgal, de la racine du mot rouler, justement. Alors ils ont appelé ce lieu Gilgal, leur premier lieu dans la terre promise. Parce que, à partir de ce moment-là, ces deux institutions, ces deux monuments que Dieu avait donnés, vont être de nouveau pratiqués. Dieu va leur donner l'instruction de circoncire tous les hommes qui n'ont pas été circoncis depuis les 40 dernières années. Et puis, c'est le moment où ils doivent célébrer la Pâque, la première Pâque depuis 40 ans qu'ils ont voyagé dans le désert. Le verset suivant nous dit, au verset 10, Josué chapitre 5, « Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir, dans les plaines de Jéricho. » Ils ont célébré la Pâque au moment où ils sont sortis d'Égypte. La première chose qu'ils font en entrant en terre promise, c'est célébrer la Pâque de nouveau. Il y a là deux monuments vivants cette fois-ci. La Pâque et la circoncision. Dieu veut renouveler cette alliance avec son peuple. Renouveler une alliance de fidélité, une alliance de salut avec son peuple. Il veut rouler la honte du péché qui s'est accumulé dans cette relation avec lui. Dieu veut leur rappeler que c'est lui qui sauve. Dieu veut leur rappeler qu'il n'y a pas un autre nom que celui de l'agneau par lequel ils puissent être sauvés. Mais le Seigneur nous donne à nous aussi deux monuments. Deux monuments pour que nous n'oublions pas. Deux monuments qui sont aussi liés à l'alliance que le Seigneur nous a invités à faire avec lui. Ces deux monuments vivants, c'est le baptême et la Sainte Cène. Notre baptême est un monument dans notre vie. C'est ce moment où nous avons construit cette alliance avec Dieu et nous avons accepté qu'il soit notre sauveur. Alors, je me demande si pour nous, ce monument est comme le monument qui a été construit au milieu du Jourdain, où il nous était dit que ce monument était encore visible à ce moment-là. Les uns et les autres, nous avons été baptisés depuis un certain nombre d'années. Mais est-ce que ce monument est encore visible dans nos vies? Est-ce que le résultat de ce monument, le baptême, la conclusion de cette alliance avec Dieu est encore visible dans nos vies aujourd'hui? Ou est-ce que nous avons simplement considéré le baptême comme une faillite? Vous savez, une faillite, c'est fantastique. Toutes les dettes sont annulées. Youpi, on repart sans dette. Pour vous, c'est ça le baptême? Une faillite où enfin toutes les dettes sont effacées, tranquille, on peut continuer à vivre sans problème, sans souci? Ou est-ce que le baptême et comme le Seigneur le voudrait, le symbole de notre mort à nous-mêmes, un monument pour se souvenir que le Seigneur nous a donné une résurrection, nous a donné la vie. Est-ce que nous l'avons oublié, ce monument-là? Est-ce que nous l'avons perdu de vue? Est-ce que nos pas nous ont reconduits plus près de l'Égypte que de la terre promise? C'est là le premier monument vivant que le Seigneur nous a donné, le baptême. Et puis le deuxième, c'est la Sainte Cène. Dans l'esprit d'ailleurs de ce que Dieu voulait que le peuple fasse justement avant d'entrer dans la terre promise, c'est-à-dire sanctifiez-vous. une reconsécration à Dieu. C'est de cela qu'il est question. Dieu avait demandé au peuple de se préparer soigneusement pour entrer en terre promise. Le Seigneur voudrait que son peuple, l'Église du reste, se prépare minutieusement pour entrer aussi en terre promise. La Sainte Cène à laquelle nous allons participer tout à l'heure est précisément ce monument pour que nous n'oublions pas ce qu'a coûté notre salut. Nous nous réjouissons du salut, nous nous réjouissons de la vie éternelle, nous nous réjouissons de l'espérance glorieuse que nous pouvons avoir, mais nous pouvons être tentés au long du chemin d'oublier ce qu'elle a coûté. Cette bienheureuse espérance, c'est en fait la bienheureuse espérance de retrouver Jésus dans la vie éternelle, alors que Jésus lui-même a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que cette espérance a coûté ? Elle a coûté le sacrifice de Jésus. Elle a coûté cher. Elle a coûté tout ce que Dieu avait. Et pour que nous n'oublions pas la valeur de cette vie éternelle, le Seigneur nous donne ce monument vivant qu'est la Sainte Cène, la préparation à la vie éternelle. Parce que de Sainte Cène en Sainte Cène, nous avons cette réflexion de savoir où nous en sommes dans la reconstruction de ce lien avec le Christ. De Sainte Cène en Sainte Cène, nous sommes invités à vivre une reconsécration à ce Jésus qui a donné sa vie pour nous. Ça s'est passé à Gilgal. Et vous pouvez imaginer que dans l'esprit de ces gens, il y avait toutes sortes d'émotions mélangées. Ils ont compris que leur voyage de 40 ans dans le désert venait de s'arrêter. D'ailleurs, la manne s'est arrêtée de tomber parce qu'ils ont commencé à manger le blé du pays et les fruits du pays. Donc ils ont compris que ce voyage était terminé. Ils étaient arrivés au bout du voyage. Mais en fait, ça ne faisait que commencer. Il fallait conquérir ce pays. Mais Gilgal était leur premier poste en terre promise. Et il s'est passé à Gilgal un certain nombre d'événements extrêmement significatifs. C'est évidemment le lieu du passage du Jourdain. Ce lieu où Dieu a ouvert la voie, il a ouvert la porte pour qu'ils puissent passer. Et puis, c'est le lieu de leur premier camp. De leur premier camp en terre promise. C'est aussi le lieu où la circoncision a été pratiquée. Depuis 40 ans, elle ne l'avait plus été. C'est aussi le lieu où on va pratiquer de nouveau la Pâque. C'est aussi le lieu où la manne s'arrête. Et puis c'est le lieu où plus tard, on va oindre le premier roi d'Israël, Saül, sera oint à Gilgal. Mais l'événement qui m'intéresse dans l'histoire de Gilgal, c'est l'événement qui s'est passé un petit peu plus tard et qui est rapporté dans le livre des rois, le deuxième livre des rois au chapitre 2, en rapport avec Élie. Élie avait rempli son ministère prophétique. Il avait établi des écoles de prophètes. Et Dieu avait instruit aussi les élèves de ces écoles que leur maître allait partir. Élie était avec Élisée. Et il était à Bethel. Et de Bethel, ils ont voyagé ensemble jusqu'à Jéricho. Et là, Élie a dit à Élisée, « Écoute, reste ici avec l'école de prophètes. Je vais continuer mon chemin tout seul. » Élisée lui répond, « Pas question. Je ne te lâcherai pas d'une semelle. Je reste avec toi. » Alors les deux continuent leur chemin. Et ils continuent leur chemin vers Gilgal. Parce que Gilgal, c'est ce lieu qui est situé à 3 kilomètres au nord-est de Jéricho, juste au bord du Jourdain. C'est là que le peuple a passé. Et là, il se passe encore quelque chose. Vous vous souvenez, Élie et Élisée arrivent au bord du Jourdain. Élie prend son manteau, le roule, frappe les eaux du Jourdain qui s'ouvrent à la même époque que lorsque le peuple d'Israël a traversé. Le Jourdain est en crue, il est large, et le Jourdain s'ouvre. Élie et Élisée vont traverser le Jourdain ensemble, à pied sec. Et un petit peu plus loin, Élie va être emporté au ciel, nous dit le texte, par un char de feu. Élisée est là comme pétrifié, il s'y attendait, il savait que ça devait arriver. Mais il est pris par surprise, par la gloire de cet événement-là. Et il reçoit le manteau d'Élie, symbole de son autorité et de son ministère prophétique. Mais cet événement est extrêmement significatif parce que Élie, cette fois-ci, va lui aussi traverser le Jourdain. Mais il ne va pas traverser le Jourdain pour aller dans la terre promise ici-bas, comme le peuple hébreu l'avait fait dans l'histoire que nous avons évoquée. Élie va traverser le Jourdain avant d'aller dans la terre promise céleste, monter au ciel. C'est un témoignage puissant de l'Éternel pour dire à ce peuple, « Vous avez traversé le Jourdain parce que je vous avais promis ce lieu particulier, que j'avais promis à vos ancêtres, un lieu que je vous ai donné. » Seulement, ce n'est jamais qu'une étape dans le voyage, parce que ce que je veux vous donner en réalité, au-delà du Jourdain, c'est la vie éternelle, c'est la Canaan céleste, c'est le royaume des cieux. Et comme pour prouver qu'il est capable de le faire, Dieu prend Élie et l'emmène au ciel, dans la terre promise, céleste cette fois-ci, non pas la terre promise terrestre. Ainsi, ce peuple a devant les yeux la preuve, la démonstration que Dieu a un plan pour eux qui dépasse simplement la possession de la terre promise, promise à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il y a autre chose plus loin. Et c'est pourquoi Gilgal est important. Gilgal, c'est la porte de la terre promise, mais Gilgal, c'est aussi la porte du royaume des cieux. C'est l'endroit où Dieu fait rouler de dessus nous le péché qui nous sépare de lui et qui nous empêche de nous préparer pour son royaume. Chaque sainte scène est une sorte de Gilgal où Dieu veut faire rouler en bas de nos épaules le péché, ce qui nous sépare de lui. Dieu laisse des monuments dans le temps, des monuments dans nos vies. Le baptême en est un, mais il en est peut-être qui n'ont pas encore placé ce monument dans leur vie. Il manque ce monument à la gloire de Dieu. Et puis, le deuxième monument, c'est cette sainte scène que nous allons vivre ensemble et qui nous invite à nous souvenir de ce monument qui s'est dressé un jour à Golgotha dans la croix de Jésus. Ce monument qui a séparé le temps, ce monument qui a garanti la vie de tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. Mais le Seigneur laisse aussi des monuments dans le monde, parce que finalement, au-delà des monuments qu'il laisse, il nous invite à être nous-mêmes des monuments à sa gloire. Il nous invite non seulement à nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous, mais il nous invite à être nous-mêmes des monuments pour ceux qui nous entourent, des monuments qui invitent ceux qui nous entourent et le monde d'aujourd'hui à se souvenir que Jésus a donné sa vie pour tous ceux qui sont prêts à l'accepter comme leur sauveur. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui à nous approcher de lui dans ce moment de sainte scène et que ce soit pour chacun d'entre nous un nouveau Gilgal en marche vers le royaume des cieux. Amen.